La Loire est un itinéraire déjà bien connu par les pèlerins du Moyen-Âge, avec Saint-Martin de Tours ou Saint-Jacques de Compostelle. À la Renaissance, le nombre de voyageurs augmente. Les foires, la présence de la cour et les événements politiques attirent du monde. Tout le monde voyage par eau. En plus du commerce, le fleuve sert aussi pour le déplacement des personnes. Tous, chalands ou sapines, sont parfois équipés d'une cabane en bois, sommairement aménagée, qui protège les voyageurs du vent et de la pluie. Avec les rois, installés dans le Val de Loire, le quotidien des riverains est rythmé par la vie privée et publique des souverains. Naissance, baptême, fiançailles, mariage et funérailles sont autant d'événements souvent liés à la Loire. Ainsi, Louis XI embarque à Roanne pour rentrer au Plessis-les-Tours après son pèlerinage au Puy. En 1469, le futur Louis XII, alors âgé de 7 ans, descend le fleuve avec sa mère de Châteauneuf à Blois. La communauté des marchands paie les musiciens qui jouent sur un chaland entre Saint-Loup et Orléans, ainsi que les artisans et marchands qui équipent les bateaux pour des collations. En 1505, Anne de Bretagne et sa suite voyagent vers la Bretagne, avec une galère toute neuve qu'un marinier de Tours avait construite à son intention. En 1514, le cortège funéraire de son cœur rejoint Nantes en 5 jours par voie fluviale. Pour une visite à Nantes en 1518, la famille de François Ier prend 2 bateaux ornés de drapeaux et d'armoiries, équipés de cabines couvertes de toiles cirées. Pour le retour, ils avancent, allés, parfois par des riverains réquisitionnés. Les entrées royales sont un rituel politique fréquent. Les villes offrent des accueils spectaculaires et s'embellissent de décors éphémères, avec une scénographie symbolique saturée de références bibliques et mythologiques. Les tableaux vivants, hérités des mystères médiévaux ou des triomphes antiques, sont élaborés par des artistes et des poètes dans un style nouveau. La ville cherche ainsi aussi bien à influencer l'humeur du souverain qu'à plaire à sa propre population qui participe activement à la mise en œuvre. La Loire sert pour acheminer les invités et elle est parfois au cœur des cérémonies. En 1573, Henri Duc d'Anjou entre à Orléans, accueilli par une grande quantité d'artillerie qui était sur le bord de la rivière, cause d'une grande admiration aux spectateurs. Angers, la Maine et ses berges se transforment en scènes de bataille navale. On offre aussi de somptueuses pièces d'orfèvrerie ou de céramique. Les festivités pèsent sur les finances, mais en affichant leur attachement au roi, les villes en espèrent un retour sous forme de nouveaux droits ou libertés. Ambassadeurs et visiteurs illustres viennent dans la région. Ainsi, Machiavel et le cardinal Louis d'Aragon parcourent la Loire dans les années 1510-1520 et transcrivent leurs impressions dans des récits et des lettres. En décembre 1539, la visite de Charles Quint marque les souvenirs. Les échevins d'Orléans envoient au-devant du roi jusqu'à Gien 10 ou 12 bateaux, tous couverts de satin, où se trouvaient galeries, chambres et cheminées. L'empereur, lui, entre à Orléans par le pont. À l'entrée du dit pont, fumit un ciel sur lui, tout de drap d'or, avec ses armes, celles du roi, du dauphin, du duc d'Orléans et de la ville. Pendant la Renaissance, les états généraux du royaume se tiennent 6 fois dans le Val-de-Loire et occasionnent donc l'acheminement et le séjour de nombreuses personnalités. Artistes, scientifiques et gens de lettres, français ou étrangers, témoignent de leur passage par l'écrit ou par l'image. Leur vision complète celle des auteurs locaux et nous permettent de nous faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler la Loire, ses villes et ses paysages à l'époque de la Renaissance. Thank you.
Thank you.